la situation du Moyen-Orient, là, en Israël. À savoir que là, j'ai un article qui montre les deux drapeaux, jordanien et palestinien. Non, c'est pas là-dessus, c'est là. Les deux drapeaux, là, je ne peux pas les projeter, mais vous pouvez regarder sur Internet. Les deux drapeaux sont pratiquement identiques. Ce qui change, c'est juste une petite étoile qui est dans le drapeau jordanien, qui n'est pas dans le drapeau palestinien. Il faut pas sortir de Saint-Cyr ou je sais pas d'où pour imaginer que l'origine est la même, quoi, que l'origine du drapeau palestinien. Et le palestinien est issu du drapeau jordanien. D'ailleurs, Colette me confirme que en Jordanie, les deux tiers sont des Palestiniens qui sont en Jordanie. Pourquoi évoquer ça? Parce qu'en fait, le drapeau jordanien est le drapeau proposé pour le deuxième État arabo-palestinien de Cisjordanie de Gaza. Sont presque identiques. Si donc eux-mêmes se sentent appartenir au même peuple, pourquoi nous devrions-nous tomber dans le mensonge, différenciant les Arabes palestiniens de la rive occidentale du Jourdain et ceux de la rive orientale? Hein, pourquoi faire une différence, puisque eux-mêmes se réclament de cette même appartenance? Quelqu'un peut-il expliquer pourquoi ces deux drapeaux sont identiques? Jamais dans l'histoire, les Arabes n'ont utilisé le terme donc latin Palestine. Les Arabes ne peuvent pas prononcer le nom paix, qui n'existe pas en arabe. Et en 1920, donc avant la fondation de l'État d'Israël, quand la Société des Nations a créé ce territoire, il l'a appelé Palestine. Et les Arabes ont commencé à appeler cette terre Palestine, ce qu'ils ne pouvaient pas prononcer, ce que les nations ont appelé, ils ne pouvaient pas le prononcer. Donc ils l'appelaient Palestine et pas Palestine. Mais ce territoire ne s'est jamais appelé Palestine dans la langue arabe et des habitants arabes. Les Arabes locaux ne se sont jamais appelés Palestiniens. Même pas pendant le mandat britannique, puisque le mandat britannique, c'était après la guerre de 17, comme les Turcs ont perdu la guerre, parce qu'ils étaient avec les Allemands, que les Allemands ont perdu la guerre. Ils ont démantelé l'Empire ottoman et ils l'ont distribué aux Occidentaux. Donc la France avait le Liban et les Britanniques avaient la partie d'Israël avec la Jordanie. Donc c'était sous le mandat britannique. Les dirigeants arabes et les Britanniques se référaient à eux-mêmes comme des Arabes. Ils ne s'appelaient pas Palestiniens, ils s'appelaient Arabes. Le nom que eux utilisent pour eux, c'est Arabe, c'est pas Palestinien. C'est quelque chose qui était coiffé dessus. Les habitants arabes ont toujours été appelés Arabes. Et rappelez-vous, le pasteur Ezagouri, il a montré dans la Bible, dans les passages de l'Ancien Testament, il est toujours passé parler des Arabes et des Philistins, qui étaient toujours les ennemis d'Israël. Une recherche informatisée du rapport Hobbs-Simpson en 1930 montre que le terme palestinien ne figure nulle part dans ce rapport comme substantif. Les termes utilisés sont arabe palestinien, juif palestinien, chrétien palestinien, mais pas comme palestinien. Alors d'autres exemples pour vous prouver que tout ce que les médias aujourd'hui relayent, et même les politiques, c'est faux, c'est que le Jérusalem Post, c'est un journal juif qui a été appelé Palestine Post depuis sa fondation en 1932 jusqu'en 50. En 1923, Pinhas Rutenberg, c'est un juif, a fondé la Société Palestine Électrique. Donc c'est les juifs qui ont adopté le mot Palestine, oui, qui deviendra plus tard l'Israel Electric Corporation. Il y avait aussi un orchestre juif qui s'appelait le Palestine Sinfonia Orchestra. Vous voyez, on est dans le paradoxe le plus complet. Parce que les juifs utilisaient le mot Palestine. Durant la Deuxième Guerre mondiale, les Britanniques ont formé une brigade juive pour combattre les puissants de l'Axe. Et ils ont formé une brigade. Et elle est connue par les Anglais comme la brigade palestinienne. Donc c'est les juifs. Les Israéliens d'un certain âge se souviennent tous que eux, les Juifs, étaient appelés Palestiniens avant 1948. Donc c'est les Juifs. C'est comme avec Israël et Ismaël. Enfin, voilà, on est Isaac et Ismaël, on est complètement toujours à l'envers. C'est le diable, hein, il tourne tout. Voilà. Combien de fois ai-je entendu ce témoignage? Je pense à mes amis du kibboutz, Kfar Menahem et bien d'autres, Il s'agit du narratif arabe et malheureusement les Israéliens donnent une signification à cette revendication en acceptant d'appeler les Arabes de la région par le nom qu'ils ont volé. Ils n'auraient jamais dû accepter. En fait, c'est la faute un peu des Juifs qui ont accepté ça alors qu'en fait c'était leur appellation palestinienne. Voilà. Bon, c'est juste pour vous donner. Je termine là-dessus. Voilà, donc c'est bien l'empereur Adrien qui est nommé Palestine, dans le but d'humilier les Juifs vaincus. Ils forgèrent ce nom Palestine en référence aux Philistins, peuple de la mer, et les anciens ennemis des Juifs, qui à l'époque d'Adrien avaient complètement disparu depuis des siècles, et dont il ne reste absolument aucun vestige, ni même la langue, sauf ce qui est écrit dans la Bible à leur sujet. Philéchette. Donc Philéchette, voilà, ça rapporte aux Philistins. Le dirigeant arabe, en 37... Il n'y a pas de pays tel que la Palestine. Notre pays a fait partie de la Syrie pendant des siècles. Donc les Arabes eux-mêmes réclament qu'ils font partie de la Syrie et la Palestine, ils ne connaissent pas, quoi. Enfin, ne pas confondre la Philistie et la Palestine. Ces deux dénominations n'ont rien à voir. Les auteurs grecs, en particulier Aristote, souvent cité par les Arabes, ne parlaient pas de Palestine. Palestine, nom latin créé par l'empereur Adrien, mais de la Philistie, pays des Philistins. Donc vous voyez, c'est la Bible qui a raison. Puisqu'il parle des Philistins, le pays des Philistins, alors qu'aujourd'hui, tout est inversé, et on parle de la Palestine à tort et à travers. Voilà, donc c'est un élément important pour votre discussion avec vos collègues, etc. Voilà, on va prier pour cet après-midi, et on a donc le témoignage de Colette. On va commencer par quelques photos, pour que vous puissiez visualiser un peu Israël aujourd'hui. Et comment Colette, qui a vécu là-bas comme consul de France pendant 5 ans, quand elle va parler, vous pouvez visualiser un petit peu les endroits où elle a pu se trouver. Seigneur, nous te remettons cet après-midi, nous te demandons de conduire, de diriger ces instants et que tu sois présent par ton esprit et tu nous parles. Tu nous parles, Seigneur, dans le fond de nos cœurs, pour que la vérité soit vraiment marquée pour chacun de nous. Et que nous puissions parler avec vérité, avec amour, au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, mais je te laisse et je vais passer.
Et je prie sur la parole, c'est-à-dire Isaïe 55, le verset 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, et là je pourrais prier en disant, ainsi en est-il des témoignages qui ont été portés en faveur d'Israël, tant mercredi que samedi et qu'aujourd'hui dimanche, que ces témoignages ne retournent point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Pardon, j'ai pas de baguette pour vous montrer les choses, mais en tout cas, vous voyez les zones qui sont grisées sur la carte, vous voyez des taches qui sont plus sombres, c'est-à-dire au-dessus de Jérusalem, à la hauteur de Hercilia, Tel Aviv, Jaffa, vous voyez une zone d'ombre. Bon, là, ce sont des territoires qui sont occupés par des Arabes israéliens. Ensuite, on descend jusqu'à Jérusalem. Jérusalem, évidemment, ce sont des territoires disputés, donc, hein, je veux dire, vraiment au sens international juste du terme. Quand on descend sur Bethléem, qu'on arrive sur Hébron, vous voyez la zone grisée, elle est quand même visible. Là, ce sont vraiment des territoires qui sont disputés actuellement et qui sont sous autorité palestinienne, à la fois au niveau administratif et au niveau armé. Et naturellement, de l'autre côté, la bande de Gaza est également de la même façon, sous autorité palestinienne, administration et armée. Mais en tout cas, toute cette partie-là, c'est ce que Perrine Dufoy vous décrivait hier comme les zones A, B et C. Entre parenthèses, ça occupe ces zones grisées sont la Samarie, en termes bibliques, la Samarie et la Judée. Alors, ce sont des images qui ont été prises par un ami israélien juif qui habite d'ailleurs en territoire disputé, à Ofra très exactement. Et je lui avais demandé de faire un panel de photos pour montrer combien Israël, sur un plan géographique également, est une terre de contraste. Tout à l'heure, on verra une montée sur Jérusalem enneigée, mais c'est aussi une terre de contraste géographique et climatique, parce qu'on peut trouver des températures très fortes dans le Négev, et quand on monte dans le Golan, on peut également trouver des températures moins sympathiques. Donc c'est vraiment sur un tout petit pays une terre de contraste, et c'est ce que ces photos ont pour objectif de vous montrer. Alors ça, c'est le plateau du Golan, qui est par excellence un territoire contesté depuis 1967. Pour ne rien vous dire, moi, je n'avais pas le droit d'aller sur le plateau du Golan. Mais j'y suis quand même allée. Il y a des découvertes archéologiques qui ont été faites et qui montrent la présence juive sur le Golan. D'où les photos que vous voyez là. Le Golan, c'est le poumon d'Israël. C'est vraiment le poumon d'Israël. C'est là qu'il y a beaucoup de cultures. Et dans le Golan, ce qui est étonnant, c'est de voir comment le relief, au lieu d'être sorti comme les montagnes, il est encastré en fait. C'est-à-dire qu'il y a des vallées qui sont comme ça. Et quand on fait de l'excursion à pied, pédestre, en fait, on est à l'intérieur du plateau. On n'est pas sur le plateau. Oui, c'est tout à fait, d'ailleurs elle est appelée la petite Suisse. Hein. La petite Suisse. Damas, il est à 30 km de la frontière du Golan Nord, oui. Alors Haïfa, c'est la ville du nord, c'est le port, hein, je veux dire, c'est une ville de villégiature, c'est une ville qui est construite sur 3 étages, c'est une ville très agréable, bon, c'est différentes vues, bon, je ne vais pas les commenter parce que ne faut pas perdre trop de temps, je crois pas. La vallée de Jézréel, c'est biblique, hein, je veux dire, c'est biblique, et vous voyez comment c'est, ça c'est vraiment Israël aujourd'hui, hein, c'est pas... C'est concret. Alors maintenant, on est passé du nord, on arrive rapidement au sud, et vous voyez que le plateau du Golan, vous avez les souvenirs de la verdure, de la petite Suisse, et maintenant on va arriver dans des paysages vraiment désertiques, comme vous avez en haut. Et on voit ces animaux-là, les gazelles, on les voit, moi j'en ai vu. Ah ça, il a donné une carte des vins, bon ça on peut passer rapidement, je veux dire, ça n'a qu'un intérêt secondaire. Mais enfin, on en a goûté au moins 2 échantillons. Mais ceci dit, Israël a développé effectivement la production de vin, ce qui n'avait pas, c'est très récent la production de vin, ça date peut-être d'une 15aine d'années. Alors voilà, donc, terre de contraste, il peut neiger à Jérusalem. Moi, j'ai jamais eu l'occasion de voir Jérusalem parce que j'ai pas pu me déplacer, mais il a neigé quand j'y étais. Et donc là, c'était une année, ça doit faire il y a 2 ans, ça. Ça, c'est la montée, la route, là, c'est la montée de Tel Aviv sur Jérusalem. Et je disais à je sais plus qui hier que tous les arbres que vous voyez là ont été plantés par la main de l'homme. Ont été plantés vraiment de main d'homme par le Fonds national juif avant même 1947 où le peuple juif avait commencé à déjà amender en fait la terre. Et on a l'impression effectivement de comme si on était dans les Vosges là. Enfin là en plus avec la neige, mais même sans neige, on a l'impression qu'on est dans les Vosges. Alors ça, c'est l'entrée. Quand on arrive de cette route, on sort de cette route, on arrive par l'entrée, la route en fait de Tel Aviv qui arrive sur Jérusalem. Le pont que vous voyez là, alors on le devine, c'est un pont qui symbolise la harpe de David, en fait. C'est un pont magnifique sur un terme d'architecture et il a été construit pendant la période où moi j'étais. C'est-à-dire qu'en arrivant, je ne l'ai pas connu, je l'ai connu qu'à la fin de mon séjour. Il est très beau. Il ressemble un peu au pont de Saint-Nazaire, mais pour ceux qui connaissent, je veux dire, ou au pont de Millau, hein, je veux dire, mais ça symbolise en tout cas la harpe de David. Bon, il y a une série de là, c'est commenté, donc je ne vais pas le faire, vous pouvez lire vous-même. Alors ça, c'est bien sûr ce que le mur occidental que les Juifs appellent le Kotel. Jamais les Juifs n'appelleront le mur des Lamentations. Jamais. C'est nous qui le disons, mais le terme utilisé, c'est le Kotel. Donc c'est bien sûr une partie des soubassements du temple qui a été détruit en 70 avant Jésus-Christ. Et il se prolonge. La partie, vous voyez, sous les constructions, là, il y a un tunnel là-dedans. Le tunnel débouche sur la Via Dolorosa. Et dans ce tunnel, on voit la prolongation du mur, du Kotel. Mais le mur, vraiment, d'origine, il y a des pierres qui pèsent à peu près une tonne. C'est très impressionnant. Ça se visite, hein, tous les... Je veux dire, je suis sûr qu'il y en a qui l'ont visité, dans ceux qui ont été en Israël. Kotel, le mur. Le mur. Alors ça, c'est certainement vu du mont des Oliviers, justement. C'est pas certainement, c'est même sûr. C'est vu du mont des Oliviers. Enfin, l'autre. Voilà. Ça, c'est donc la Knesset, hein, devant laquelle, tout à l'heure, on a vu qu'il y avait une menorah, une grande menorah. La menorah est devant la Knesset. Hein. La menorah, c'est le chandelier à sept branches du temple, dans le temple. Yad Vashem, c'est comme l'indiquait ici, le mémorial des déportés, donc qui normalement doit être un point incontournable de toute visite en Israël. Mais moi, je me suis rendu compte pendant que j'étais là-bas que nombre de tours chrétiens, sans les nommer particulièrement, des tours chrétiens, ne visitaient ni le Kotel, ni le Yad Vashem. Ça indique, déjà. Ça, c'est à l'intérieur de Yad Vashem, l'allée des justes, de ceux qui ont été reconnus justes par Yad Vashem pour avoir sauvé, pendant la Seconde Guerre mondiale, des Juifs. J'en doute pas. Alors moi j'ai assisté à trois remises de décoration, enfin de reconnaissance dans le jardin de Yad Vashem de justes français, justement. Mais alors c'était pas eux directement, c'était des descendants évidemment, mais ça n'empêche pas que les familles sont honorées. Voilà. D'accord. Bon, alors, donc puisque je dois commencer à faire mon témoignage. Où j'ai mis ma prime. Voilà. Alors, bah écoutez, je suis d'abord très heureuse que l'église d'Aubergenville ouvre sa porte à Israël, parce que c'est pas évident, et je n'en veux pour preuve que hier soir, Perrine Dufoy, en partant, me disait que dans sa propre église, elle n'aurait probablement pas pu porter le témoignage qu'elle a porté, en tout cas devant celles et ceux qui étaient présents. Donc c'est simplement ça que je voulais préciser, et donc pour ça, remercier l'église et André et Michel de permettre cela. Alors, pour ce qui me concerne, André a rappelé tout à l'heure dans quel contexte moi j'ai connu Israël. Donc, je rappelle la période 2006-2011, 5 ans, et c'était dans le cadre d'une présence officielle en Israël, donc dans un périmètre qui était tout à fait bien déterminé. Je n'étais pas missionnaire, j'étais vraiment fonctionnaire des affaires étrangères, consul de France, donc dans cette période. Ce qui ne m'a pas facilité la tâche sur un certain nombre de points, comme vous pouvez l'imaginer. Alors, mon message, c'est, je vais l'intituler comme ça, Israël, c'est une affaire de cœur, en fait. Quand je suis arrivée en Israël, il faut bien savoir que j'étais ce que j'appellerais brute de fonderie. Je venais de Dakar, j'avais derrière moi 5 ans de conversion, donc je n'avais aucun arrière-plan théologique, biblique sur Israël. Je n'avais pas non plus, je suis très honnête et très sincère, je n'avais pas de cœur pour Israël. Donc j'étais ce que j'appelle brute de fonderie. C'est aussi pour dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait des études, il n'y a pas besoin d'avoir une connaissance géopolitique, stratégique et tout ce que vous voulez d'Israël pour comprendre le cœur de Dieu par rapport à Israël. Ça n'a pas à voir. Et en tout cas, pour ce qui me concerne, c'est vraiment le cas. Et donc Israël s'est révélé à moi. Donc dans ma dimension alors privée, et c'est d'ailleurs la première fois que je porte ce témoignage parce que ça touche quand même une partie de ma vie privée. Israël s'est vraiment révélé comme une terre de révélation et d'incarnation. Révélation sur un premier plan. Quand je suis arrivée en Israël, je n'avais pas dans ma vie de chrétienne la révélation du Père. Donc c'est en Israël que j'ai eu la révélation du Père. Du Père dans la dimension Père, Fils, Saint-Esprit. Hein. C'est bien dans ce contexte-là que je me situe. Et je me souviens avoir dit à mes pasteurs qui étaient à Nantes à ce moment-là, je ne comprends pas, en arrivant en Israël, j'ai perdu Jésus. C'est ce que j'avais dit. J'ai perdu Jésus. C'est-à-dire pendant six mois, j'étais perdue. J'avais pas de boussole, j'étais comme une flèche qui bouge comme ça, et ça me faisait une drôle d'impression, parce que je répète que j'avais pas de grande conversion derrière moi, donc c'était pas spécialement facile, d'autant que je n'avais pas, à ce moment-là, de vie, si vous voulez, d'église sur place là-bas. Hein, le contexte, il était celui-là. Donc, et j'ai eu la révélation du Père, et en même temps, pas simultanément, mais quasiment en même temps, a commencé à se dessiner la révélation du cœur du Père pour Israël, et à partir de la parole. Rien d'autre que ça, à partir de la parole. Alors, j'explique un petit peu plus la révélation du Père. Ça s'est passé sur un temps qui était de 2007, on va dire, à 2008, et quand j'ai essayé de bâtir un peu le message que je vous donne, j'avais pris des notes. Hein. C'est sur les notes que j'ai prises à l'époque que j'ai travaillé ça. Donc ce n'est pas quelque chose qui sort de ma mémoire. Le tout début, ça a commencé avec la fête de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est la nouvelle année juive. Et En général, c'est en septembre, ça peut être aussi en octobre, ça dépend du calendrier lunaire. Donc, mais en général, c'est en septembre, oui. Et donc, Dieu avait commencé à préparer mon cœur, et ça a commencé par un acte d'obéissance. Un acte de sérieuse même obéissance, parce que quand j'ai dit que Israël est une terre d'incarnation, le Père s'est incarné, en fait, dans une personne. Mais là, je vais être extrêmement discrète parce que la personne existe, elle est toujours là, elle est dans le milieu de nos églises. Donc, par respect, je vais rester dans la discrétion. Mais là où j'ai dû faire acte d'obéissance, c'est que la personne en question ne pouvait absolument pas représenter, moi comme je voyais ça à ma dimension humaine, un monsieur d'une cinquantaine, soixantaine d'années, par exemple, un père, quoi. Enfin, je veux dire, surtout par rapport à moi, à mon âge, j'avais vu la chose comme ça, sauf que Dieu, il n'avait pas du tout vu la chose comme ça, et il s'est incarné dans une personne qui était exactement l'inverse de ce que je pouvais imaginer, c'est-à-dire plus jeune que moi, qui n'était pas un homme, qui était une femme. Donc c'est là aussi que j'ai compris qu'il y avait la dimension, le père était aussi mère d'ailleurs. Donc je ne vous dis pas dans quel état j'étais, j'étais très perturbée, je ne vous dis pas. Donc, et je me souviens être à genoux dans ma chambre, j'ai dit mais tu vas quand même pas, enfin, je veux dire comme ça presque, tu vas quand même pas me révéler le père à travers cette personne-là, c'est pas possible. Et la réponse a été, est-ce que c'est toi qui choisis le chemin ? Et donc, je peux vous assurer que ça a été difficile. Hein. Ça, je ne vous dis pas. Mais, donc, première étape, acte d'obéissance. Deuxième étape, je vais dans ce qu'on appelle une Keïla, c'est-à-dire un lieu de culte messianique. Et dans ce lieu de culte messianique, qui était tenu, d'ailleurs, qui est toujours tenu par un Français marié avec une juive messianique, il s'appelle Tony Sperandeo, et ce Tony Sperandeo est relié avec l'église d'Acété de Fabienne Ponce. Dans ce jour-là, donc jour de Rosh Hashanah, nouvelle année juive, il y avait Bruce Thompson dans la Keïla. Bruce Thompson, c'est l'homme du fil à plomb, pour ceux qui ont lu le livre. Et à la fin du culte, il m'a appelé. Et là, il y a eu un temps, je veux dire, de révélation que je ne vais pas décrire parce que bon, ça n'a pas d'intérêt. Le Père a parlé à travers Bruce Thompson pour me concernant. Donc, premier temps, Rosh Hashanah. Ensuite, il y a eu du vécu, hein, je veux dire, il y a eu des brisements, il y a eu beaucoup de choses. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Et la fin de cette... Enfin, la fin. Un autre point fort, c'est que pendant le temps de travail, en fait, qui était dur, qui était un temps de souffrance intérieure pour moi, à Kippour, un jour après Kippour, j'ai reçu un appel téléphonique de ma sœur me disant que mon père biologique avait fait la veille, c'est-à-dire le jour de Kippour, une crise cardiaque. Chose qu'on n'attendait pas du tout, car il n'était pas malade du cœur. Rien ne pouvait expliquer, en tout cas physiquement, qu'il ait fait cet accident cardiaque. Et c'est un miracle qu'il soit encore en vie, parce que mon père est en vie actuellement. Il va avoir 89 ans bientôt. C'est ma mère qui est décédée l'année dernière, qui l'a sauvé, en fait, qui a eu la présence d'esprit d'appeler les secours. C'était au mois d'octobre, dans la maison de Carnac, alors qu'il n'y avait pas de secours autour. Elle a eu la présence d'esprit d'appeler les pompiers qui sont arrivés très rapidement. Il a été transporté à l'hôpital de Vannes. Il a eu un stent de poser et il a été sauvé. Donc, je vous dirais qu'à l'heure qu'il est, je n'ai pas encore tout analysé ce point-là parce que c'est trop fort. Donc, il y a des choses que le Seigneur ne m'a pas révélées encore. Mais en tout cas, dans le travail de révélation du Père, que le Père biologique fasse une crise cardiaque alors que ce n'était pas du tout prévu, c'est quand même quelque chose de fort. Quand je vous dis qu'Israël est une terre d'incarnation, ça veut quand même bien dire quelque chose. Et troisième point que je voudrais vous partager sur ce temps de révélation et d'incarnation, c'est peut-être le plus fort. Alors, ça se situe, pour celles et ceux qui connaissent Israël, à Saint-Pierre de Galicante. Saint-Pierre de Galicante, c'est l'endroit où Pierre a renié par trois fois Jésus dans la parole. Dans Luc 22, 54 à 61. C'est là que ça se passe. Et j'étais assise en haut des marches que Jésus a montées quand il est venu du mont des Oliviers et quand il est monté pour être jugé à Jérusalem. J'étais là et j'ai senti à ce moment-là quelqu'un qui me prenait la main et qui m'a amené au cotel, au fameux cotel, sachant que de ce cotel-là, on était là en 2008. J'étais arrivée en 2006. J'avais été strictement incapable de m'approcher du cotel. Impossible. Et pourtant, des Juifs avaient voulu m'y amener. J'étais toujours restée loin. J'avais jamais pu toucher le mur, quoi, voilà. Jamais. Donc, je suis allée au cotel. Comme si Jésus me tenait par la main. Et en arrivant au cotel, je me suis sentie l'autre main prise par le peuple juif. Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Il est le premier à m'avoir pris la main pour m'amener à la maison du Père. Car pour les juifs, le cotel, c'est pas le mur, c'est la maison du Père. Et d'ailleurs, les juifs se comportent comme ça au cotel. On voit les dames avec leurs landaux qui bercent les enfants. On les voit discuter comme si elles étaient, au café. Et c'est pas du tout. On les voit, on a d'autres qui prient, etc. Ils sont à la maison. Ils sont dans la maison du Père. C'est ça que j'ai compris aussi ce jour-là. Et donc, je suis arrivée au mur que j'ai pu aller toucher à ce moment-là, avec d'un côté Jésus, le premier-né, l'unique, le chemin, la vérité et la vie, et de l'autre côté, le premier-né qui, comme s'il m'autorisait à aller à la maison du Père. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'était, même quand j'en parle maintenant, j'en ai la chair de poule encore, tellement c'était fort. Et le dernier point que je veux vous préciser, c'est que ça s'est passé le dernier jour de Soukhot, donc c'était la fête de Soukhot, la fête des cabanes, dans la parole. Et le dernier jour de la fête de Soukhot, c'est précisément le jour où les Juifs prient pour les nations. Ils prient pour les nations, et à ce moment-là, j'ai vécu totalement l'incarnation de Zacharie 8, 23. Je vous le donne pour que vous puissiez le prendre, et je vous le lis. En ce temps-là, des hommes de 10 nations parlant des langues différentes s'accrocheront à un juif par le pan de son manteau en déclarant « Nous voulons aller, nous voudrions aller là car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Donc, c'est ça que j'ai vécu dans la révélation. Alors après, il y a bien sûr d'autres choses. Hein. Je vous fais court cette histoire et je vous la fais court, vous la resituant dans le tempo des fêtes juives. Je répète, nouvelle année Rosh Hashanah avec l'accident de Kippour et avec en dernier temps Soukhot, le dernier jour de Soukhot, où précisément c'est le jour où les juifs prient pour les nations. Et c'est l'incarnation, je répète, la révélation de Zacharie 8, 23. Donc, c'est en ça que je peux dire que Israël est non seulement une terre de révélation, parce que du coup, j'ai appris effectivement à connaître le Père en Israël, et forcément que la première fois dans la rue, quand j'ai entendu un petit enfant qui criait « Abba, Père, Abba, Abba, Papa », mais j'étais comme moi-même un enfant, parce que je croyais même pas que ça pouvait se dire comme ça. Je veux dire, et après, dans la rue, j'entendais partout « Abba, Abba, Abba ». Ça, c'est vraiment une incarnation. Alors, pour la petite histoire, maman, en hébreu, ça se dit « Imma ». Voilà. Papa, Abba, et Imma, c'est maman, et grand-père, c'est Djedo. Et grand-mère, j'ai oublié. Non, c'est pas Jedi. Voilà. Alors, à part ça, Israël, bien sûr, m'a touchée parce que j'ai compris que la parole, donc celle qu'on a, était vivante, qu'elle était vraie sur plusieurs passages que je peux vous donner, mais je vais sûrement pas les citer parce que je vais c'est pas la peine. J'ai aussi compris que le peuple juif, il était une incarnation, d'un morceau, parce que on a bien tous dit qu'ils n'étaient pas parfaits. J'en ai fait l'expérience moi-même dans mon vécu pendant mes 5 ans. Donc c'est une affaire sur laquelle on ne revient pas. On n'est pas, je suis pas en train d'idolâtrer qui que ce soit là, certainement pas. Mais n'empêche qu'il faut aussi regarder les bonnes choses. Et moi, dans ma relation, et je peux dire que j'ai eu une relation exclusivement, pratiquement, avec le peuple juif, avec donc des franco-israéliens, pour bien les situer, des Français, donc, qui sont partis de France pour des raisons X, Y, dont on a évoqué un peu les motivations hier, et voilà. Et donc, c'est avec eux, et pas avec les chrétiens. Très peu avec des chrétiens. C'est d'ailleurs ce qui n'était pas facile pour moi à certains moments. Mais avec eux, j'ai compris qu'il fallait être authentique, que c'était pas la peine d'avoir une langue de bois. Alors évidemment, quand on est diplomate, enfin quand on est appelé diplomate, c'est un peu délicat parce que précisément, on est toujours appelé à être ceux qui ont une langue de bois. Donc ça m'a occasionné quelquefois des difficultés, je vous le cache pas. Mais malgré tout, dans mon comportement, j'ai essayé d'être celle qui avait le maximum d'authenticité dans sa parole. Et c'est ça, comment dirais-je, dans la relation avec le peuple juif, qui peut aussi, je dirais, les attirer à nous. Ils ont besoin d'être aimés, totalement. Ils ont besoin d'être aimés parce que, hier, Perrine disait, les musulmans se sentent rejetés, les arabes, pardon, se sentent rejetés, mais alors s'il y en a qui se sentent rejetés aussi, c'est bien sûr les juifs. Ils ont besoin de se sentir aimés tels qu'ils sont. Et la relation passe par l'honnêteté, la droiture, l'authenticité. Et quand on est comme ça avec eux, on installe une relation. Et en ceci, j'ai vu qu'ils incarnaient ce que j'appelle des attributs de Dieu, dont l'un qui est aussi très important, c'est la fidélité. C'est la fidélité. Le peuple juif incarne la fidélité, et je n'en veux que pour preuve actuellement ce qui se passe avec le stage de Tom, où lorsque j'ai interpellé des amis, de quelque éventail qu'ils soient, ils ont été d'une réactivité incroyable. Ils ont été incroyablement réactifs, et moi je suis en admiration devant cela. Donc en ceci, je dis pas, il y en a d'autres peuvent incarner cela, mais en tout cas eux, ils sont attachés à la parole. C'est là aussi qu'il y a une incarnation, parce que la parole, pour eux, ça veut dire égale action. Ça veut dire égale action. Et quand on n'est pas dans cette dynamique-là, on se casse la figure. C'est pour ça que la diplomatie, et là je suis bien placée pour en parler, se casse la figure régulièrement, parce que indépendamment des choix, etc., que vous voyez, c'est que la parole, et souvent, ils m'ont dit, mais vous, en parlant des politiques, vous parlez, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Il n'y a rien. Et quelque part, je ne pouvais pas leur dire qu'ils avaient tort. Je ne sais plus comment je me débrouillais, comme Perrine disait hier, Saint-Esprit à ce moment-là était en action parce que je ne pouvais pas leur répondre, je ne pouvais pas dire qu'ils avaient faux. Mais après, dans la dimension personnelle, quand ils voyaient que ce que l'on disait, on le mettait en action, ça les touchait. Ça les touchait. Donc le peuple juif, c'est par rapport à sa relation avec la parole, c'est la parole égale action. Et je l'ai vécu, qu'est-ce que vous voulez? Je l'ai vécu, donc je peux que vous témoigner de ça, et dans la dimension, je répète, où je l'ai eu. Hein. C'est-à-dire qu'il n'était pas une dimension spécialement facile non plus, parce que précisément, la parole politique, la parole diplomatique, elle est tout à fait l'inverse de ce que le peuple juif attend, c'est-à-dire l'action. Enfin, pour une grande partie. Hein, je veux dire. Donc, vous voyez bien que c'était pas facile. Que dire d'autre? J'ai compris avec plusieurs points de la parole, j'ai eu la révélation en fait du cœur de Dieu pour le peuple juif, bien sûr en vivant sur place, mais aussi avec différents versets, différents passages de la parole que je peux comme ça citer rapidement. Après, vous pourrez vous y repérer parce que je ne vais pas les lire. Mais par exemple, ce qui m'a parlé, Isaïe 41, 18 à 20. Bien sûr, Jérémie 31, tout sur le retour d'Israël, et particulièrement les vers 3, 4 et 10. Également dans Isaïe 46, les vers 3 et 4, dans Jérémie 23, le verset 7 et 8, et il y en a beaucoup d'autres que je ne vais pas vous citer là, mais j'ai vraiment, j'ai pas été éduquée, si vous voulez, comment vous dire, j'ai pas reçu d'enseignement. Quand j'étais en Israël, j'ai pas reçu d'enseignement, j'ai reçu des enseignements sur le terrain. Donc on était dans le pragmatique, on était sur le terrain et on était uniquement avec comme outil la parole. Voilà. Est-ce que, certes, vous allez dire, j'étais en Israël, mais ce que je voudrais partager, c'est que il n'y a pas besoin d'être spécialement éduqué, instruit. Je vous dis avec une connaissance historique, tout ce que vous voulez. Non, parce que moi, bien sûr, j'avais une connaissance quand même historique, j'avais une connaissance géopolitique. Je ne dis pas le contraire, mais ça m'a certainement pas servi dans le vécu que je suis en train de vous partager, strictement pas. Je vous dis, j'étais brute de fonderie, avec un cœur dur, avec un cœur rebelle, avec un cœur qui au départ a pas accepté le chemin que le Père voulait me faire prendre pour se révéler à moi, mais n'empêche que ça a marché quand même, et qu'aujourd'hui j'ai la révélation du Père grâce effectivement à mon séjour en Israël. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire.
Il y a peut-être des questions. Est-ce qu'elle a été brève? Est-ce qu'il y a quelque chose qui brûle en vous et qui voudrait poser à Colette? Oui.
Oui, alors je ne l'ai peut-être pas assez développé, mais j'ai cité des passages. En fait, les passages que j'ai cités, c'est les passages qui m'ont permis surtout rencontrer le cœur du Père pour Israël. Et donc ça, c'est pour moi essentiel. Enfin, avoir le cœur pour Israël, c'est surtout, me semble-t-il, avoir la révélation du cœur du Père pour Israël. Et quand il parle de la prunelle des yeux, quand il parle, enfin, je veux dire, il désobéit, mais je le reprends, je l'oublierai jamais. Enfin, c'est la Bible n'est que jalonnée de cela, des colères et de Dieu, mais qui après reviennent. Enfin. Tous les passages, je ne les ai pas cités parce qu'il y en avait beaucoup, mais complètement. Mais ça, je l'ai reçu. Le Saint-Esprit m'a en fait conduit dans certains passages de la parole et me les a révélés, en fait. Alors peut-être que c'était plus facile parce que j'étais sur place, mais je dis peut-être. Hein. Tout à fait. Je veux dire, bien sûr, puisque j'étais bien placée pour voir quelles étaient les orientations politiques de notre pays. Et comme l'a dit Perrine hier, j'aime la France. J'aime d'abord la France. Et c'est parce que j'aime la France que d'abord je l'ai servi en Israël. Alors c'est vrai en plus que j'étais jugée comme une espèce d'épiphénomène, donc par le monde chrétien, quelque part je le fuyais un peu parce que je ne voulais pas être utilisée par certaines personnes qui... je ne veux pas rentrer dans ce détail-là parce que c'est délicat pour moi, mais de plus en plus, effectivement, au fur et à mesure, je sentais bien combien il y avait un décalage entre ce que je représentais, en fait, et à l'intérieur, ce que j'étais. Oui, un grand écart même. Ben, je l'ai géré dans la prière. À ce moment-là, sur une partie de ce temps-là, l'église qui me couvrait spirituellement, c'était l'ACT, l'église de Fabienne Ponce. Et donc j'ai été soutenue à ce moment-là parce que j'ai traversé des moments difficiles, clairement difficiles, puisque tu me poses la question, je réponds. Oui, il y a des moments difficiles qui ont été résolus dans la prière. Quelqu'un avait reçu de cette église, quelqu'un avait reçu l'image me concernant, qui s'est complètement, c'était donc une image prophétique, parce que c'est révélé vrai, d'un arbre qui était bien enraciné, qui était soulevé par la main de Dieu. L'arbre était retourné, les racines devenaient les branches et les branches devenaient les racines. C'est pour montrer le travail, le chamboulement que Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont fait dans ma personne en Israël. Oui, Israël est une terre de chamboulement, c'est une terre d'incarnation, de révélation. Dans mon vécu spirituel, je peux le dire à 100%. Et d'autres pourraient en témoigner aussi, d'ailleurs, parce qu'ils ont partagé ça avec moi, pour certains. Donc, mais j'étais pas effectivement comme un individu, comme Perrine, par exemple, quand elle a passé son année et demie en Israël, elle était en tant que particulière, elle était prise en charge, etc. Moi, j'avais en plus un périmètre, et un périmètre pas facile parce que la France est un État laïque, comme l'on sait, et que donc il n'est pas question d'aller manifester quoi que ce soit, surtout pas dans un périmètre qui est donné. Et ça, j'ai toujours veillé à ça. Maintenant, quand je suis arrivée en Israël, j'avais vraiment demandé à Jésus, alors parce qu'à ce moment-là, je connaissais Jésus, j'ai dit, toi, quand tu étais en Israël, tu as parlé par la parabole. Et moi, je veux que tu me donnes le langage parabolique que tu avais. Et ça a été une arme formidable pour m'aider justement dans mon travail à faire passer des messages sur un mot. Ça, il comprenait, c'est-à-dire qu'il comprenait le message, quoi. Mais sans citer un verset de la parole, quoi. Ça, je ne pouvais pas le faire. Mais en même temps, quelque part, c'est pas que je transformais, parce que je ne me serais pas... Mais, Comment expliquer ça? C'est-à-dire, je partais en fait de l'idée et le mot-clé, je réussissais à l'utiliser dans la phrase pour faire passer le message que j'avais. Bon, je vais donner un exemple. Je peux? 3 mois, alors c'est même pas un langage parabolique, ça c'est même pas un quoique. 3 mois après mon arrivée, donc c'était décembre 2006. Je me suis fait tomber dans un piège, c'est-à-dire qu'un représentant d'association de Français, franco-israélien toujours, double, me dit « Est-ce que vous voulez venir pour le premier jour de Hanouka ?» Hanouka, c'est la fête des Lumières. C'est en fait, c'est pas Noël, mais enfin, c'est beaucoup mieux que Noël. C'est la fête de la lumière, mais c'est aussi la fête de la victoire de la pensée juive sur la pensée grecque aussi. Donc... Je ne connaissais pas ce que c'était Hanouka à l'époque. Hein. Ça, pas du tout. Hein. Donc j'arrive là-dedans. Et moi, il y avait quoi, comme une assemblée un peu plus consistante que celle-là, 70 personnes, des franco-israéliens que je ne connaissais pas. Il y avait un rabbin qui était là. Et donc, on commence à parler. Il y avait même des représentants, des survivants de l'Exodus dans l'assemblée. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi que Israël, c'est un livre d'histoire vivant. André l'a partagé, mais moi, je l'ai partagé aussi. Hein. C'est-à-dire, c'est un livre d'histoire vivant. On tourne les pages et on voit des personnes qui ont vécu, enfin, on rencontre plutôt des personnes, je vous dis là, l'Exodus. Donc, les choses se passent. Puis tout d'un coup, il y a le président de l'association qui vient vers moi et qui me dit « Ah, madame le consul, est-ce que vous voudriez prendre la parole et dire un mot ?» Alors, j'ai prié. J'ai dit « Seigneur, au secours, tu viens au secours. Il faut que je dise quelque chose. » Bref, j'ai prié, vite fait. Et donc, j'avais rien préparé. Je prends la parole. Alors, je ne peux pas vous dire ce que j'ai dit, mais parce que je ne me rappelle plus. Non, mais j'ai dit, cette fête, bah oui, mais imaginez, c'est le souvenir. Simplement, ce que j'ai dit, c'est que, de mémoire, pour moi, cette fête, c'était la fête de la lumière, que la lumière, c'était la vérité et la vie. Ça, je l'ai dit, c'est sûr. Et que ce que je remarquais en Israël, c'est que le peuple avait le souci de la vie, que ce n'était pas toujours le cas des voisins. Parce que 2006, ils sortaient d'attentats. Les attentats qu'on a eus, nous, en l'année dernière, eux, ils les ont eus depuis 2000 jusqu'en 2006. Ils ont été jalonnés d'attentats, comme les nôtres. Donc, j'ai dit, ce que je vois, c'est qu'en Israël, il y a le respect de la vie, ce qui n'est pas le cas partout, et en particulier chez les voisins. À ce moment-là, il y a eu une standing ovation. Ils ont commencé à applaudir. Et que je ne savais pas d'où. Enfin, j'étais complètement moi-même stupéfaite. Je vous dis, franchement, je parle très humblement parce que je ne m'attendais pas du tout à ce truc-là. Mais le pire du pire, c'est que le rabbin prend la parole après. Et il parlait en hébreu, mais on m'a traduit. Il a fait le même message que moi, quasiment. Quasiment le même message, c'est-à-dire sur la lumière, c'est la vérité, la vie, et qu'Israël a le souci, effectivement, de la vie, y compris de la vie chez soi et de la vie d'à côté, d'ailleurs, parce que ça allait un peu plus large, en plus. Donc, j'ai dit merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur, parce que tu es venu à mon secours, que là, j'étais complètement démunie. Donc, c'était pas vraiment, là, un exemple de langage parabolique, mais en tout cas, à chaque fois que j'ai eu l'occasion comme ça, le Saint-Esprit est toujours venu. Toujours. Donc, je peux dire, il a été fidèle de ce point de vue-là. Maintenant, c'est vrai que j'ai quand même marché bien souvent. Je ne cache pas que j'ai marché par la foi et que je faisais les choses avant de les comprendre et que je les comprenais après. Je veux dire, ma foi. Je veux dire, parce que l'Israélien, il y a un mot peut-être que vous devez savoir. Je veux dire, l'Israélien, vous savez que Israël, c'est un patchwork. Hein, et c'est les pays... sont venus d'Europe de l'Est, de Russie, de France, des États-Unis aussi. Donc c'est tout ça. Mais il y a maintenant les générations qui sont nées en Israël. Et ceux qui sont nés en Israël, on les appelle des Sabras. Les Sabras, le Sabra, c'est le fruit de la figue de Barbarie. Et pour ceux qui connaissent la figue de Barbarie, moi ça m'est arrivé une fois bêtement d'en prendre une dans la main. Les épines, ça pique, mais ça fait des décharges électriques et ça monte très haut. Donc normalement, on ne vend pas les figues de Barbarie quand elles ne sont pas dépouillées de leurs épines. Ça vaut mieux, mais moi j'avais, pour ma fille, j'ai voulu acheter ça, mais il y avait les épines dessus. Et donc j'ai pris les épines et je me rappelle très bien de ce que c'est. Mais quand on ouvre le fruit, c'est un fruit qui est très doux, qui est très parfumé et qui est très bon. Et bien ça désigne bien l'Israélien d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a des piquants au départ. Et c'est vrai, dans la société israélienne, elle est piquante, hein, je peux vous dire. Je sais, et encore moi, j'étais relativement protégée, mais c'est piquant. Ils ne sont pas très civilisés, entre guillemets. L'attaché de défense, quand je suis arrivée, m'avait dit « L'Israélien n'est pas impoli, il est apoli ». Et moi, après, j'avais pris ça très bien. J'ai dit, bah oui, comment est-ce qu'on peut être poli au sens 17e siècle du terme, c'est-à-dire raffiné comme nous, quand on est toujours dans la survie. André l'a dit hier, 5 guerres, je veux dire, coup sur coup, des attentats, coup sur coup. Ils vont à l'essentiel. Ils sont directs, l'Israélien est direct, et il va à l'essentiel. Nous, à côté, effectivement, on est raffinés. Mais en ceci, l'Alia française peut apporter beaucoup de choses à la société israélienne. Et ça a été une partie de mon boulot. Mais ça, c'est une autre témoignage.
Voilà, merci Colette. On peut garder quelques questions à la fin, avant la prière. Voilà, la deuxième partie, c'est mon témoignage à moi, qui est lié à Israël. Et je vais l'utiliser aussi, la vidéo, pour vous faire vivre un peu ce que moi j'ai vécu et qui a été le démarrage de ma vie avec Christ. Moi-même, je suis originaire d'Alsace, pas loin de Strasbourg. On est quatre enfants et mes parents étaient un peu des parents, je dirais, modèles à tout point de vue. Ils se sont attendus pendant 10 ans parce qu'il y a eu la guerre, etc. Donc j'ai eu des parents qui vraiment étaient plus que respectables à tout point de vue, mais ils insistaient beaucoup sur... Ils s'attendaient à ce que leurs enfants puissent pérenniser un petit peu tous les acquis, tous les efforts, tout le passé qu'ils avaient en tant que catholiques. Donc, mes parents étaient très fervents, mais pas des bigots. Hein, c'est des gens très intelligents sur leur foi catholique. Mais en Alsace, il faut savoir, encore, c'est vrai maintenant, parce qu'il y a le concordat encore, il y a 3 religions officielles qui sont reconnues, encore aujourd'hui, hein, même que la République est laïque et républicaine, il y a le concordat encore. Et les pasteurs et les prêtres sont payés par l'État, en Alsace et Lorraine. Et donc, il y a 3 religions qui sont reconnues comme officielles, donc catholiques, protestants et juives. Et en dehors de ça, on ne reconnaît pas. Les évangéliques ont beaucoup de mal. Ils sont un peu comme à l'intérieur de la France. Pas reconnus. Moi, quand j'étais jeune, les évangéliques, il y avait un groupe dans mon village. Quand ils faisaient des baptêmes, ils utilisaient le cours d'eau parce qu'ils n'avaient pas de local. Et on les poursuivait avec des fourches pour les tuer. Hein. Voilà. C'est encore mon enfance, hein. Voilà. Parce que il n'y a que les 3 religions, et ces 3 religions se sont toujours respectées, mais il n'est aucunement question qu'on passe d'une religion à l'autre. C'est-à-dire que moi, je passais devant tous les jours devant l'église protestante, j'ai jamais pu même ouvrir la porte pour voir ce qui se passait. La synagogue, c'est pareil, on passait en tant qu'enfant devant la synagogue, et entre gamins, on se disait qu'est-ce qui se passe là-dedans. Voilà, on imaginait les sabbats, des machins. Vous voyez, c'était très cloisonné. Par contre, le 14 juillet, ils étaient tous ensemble, rabbins, prêtres, et j'ai l'impression que c'était la grande unité. Voilà. Donc, ça, c'est un peu mon vécu. Et ce qui fait que j'étais élevé dans cette foi. Mais moi, j'aimais le Seigneur, j'aimais Dieu. Et j'ai toujours été engagé en tant que chrétien depuis tout petit. Je faisais même les messes qui commençaient à 5h du matin à l'hôpital, sans parler de toutes les autres messes, j'enfilais, etc. Mon frère aîné s'est engagé comme... Il a eu une révélation, il a eu une vision d'illumination à 13 ans. Il est rentré dans le petit séminaire jusqu'au grand séminaire à 27 ans, jusqu'à la veille de devenir prêtre. Il ne l'est pas devenu à cause de moi, parce que ça fait un chamboulement au niveau de l'évêché. C'est monté jusqu'à l'évêché, ma conversion. Et donc, j'étais engagé. Et j'aimais le Seigneur. J'avais le Nouveau Testament comme livre de chevet. Je lisais tous les jours, etc. Mais bon, j'étais toujours en recherche parce qu'il y avait quelque chose qui manquait. Mais je ne savais pas quoi. Donc j'ai cherché, on discutait avec les copains. J'étais avec les abbés. Les abbés, c'est ceux qui font la culture biblique, enfin la catéchétique dans le lycée. J'étais engagé, je faisais des pèlerinages au Mont-Saint-Odile, etc. Voilà. J'étais vraiment engagé à tous les niveaux. Mais, je ne sais pas, je considérais que Dieu, c'était le Dieu de l'univers, vous voyez, c'était le Dieu puissant et tout ça, mais qui était lointain de ma propre vie. Et je me posais toujours la question, au fond de moi-même, je dis, mais comment ça se fait qu'on parle de Dieu, mais je ne le vois pas? On parle de Dieu, mais voilà, comment est-ce qu'il se manifeste aujourd'hui? J'aimerais bien quand même voir concrètement comment Dieu agit, qu'est-ce qu'il fait, etc. Ça, c'était au fond de moi. Je ne savais pas que, voilà, ce que je cherchais, mais c'était ça, au fond. Et puis, à l'âge de 20 ans, donc je fais mes concours, je réussis l'école des arts et métiers. Et cette école, donc, elle avait lieu à Chalon-sur-Marne, donc à 400 km de chez moi. Donc voilà, c'est la grande fête, j'ai réussi l'examen. D'ailleurs, j'ai reconnu que c'est Dieu qui m'a aidé pour le réussir. Et juste en septembre, avant de commencer ma première année à l'école d'ingénieur, je rencontre un ami que je connaissais. J'ai passé pratiquement tous les soirs quand on était au lycée. On passait une heure à discuter de tout et de rien, etc. Je le connaissais très très bien pendant des années. J'étais un ami très, très proche avec lui. Et là, je le rencontre après 2-3 années de distance. Je ne l'avais pas revu. Et là, il commence à me parler d'Israël parce que c'était en 67. C'était, la guerre des six jours, c'était en juin. Et là, il me parle en août, vous voyez, donc quelques mois après. Et alors, quand il a commencé à parler, et il m'a parlé de ça, et je vais vous dire la suite après, parce que ça m'a bouleversé, parce que ce que vous allez voir, il me l'a raconté en live, lui. D'accord ? Et comme c'était juste 2 mois avant, bon, j'avais tout ça en tête, parce que j'avais lu les infos, mais je n'ai pas fait la relation entre ça et ce que Dieu avait fait. Et quand il m'a parlé de ça, là, mon cœur était touché, complètement ébranlé. Voilà, donc je vais vous montrer ça sous forme de film.
Alors qu'il était assis à la terrasse d'un café, le propriétaire du bar s'est dirigé vers lui alors qu'il buvait sa tasse de café et lui dit « Je voudrais te raconter une histoire. » J'étais un combattant égyptien pendant l'opération Kadesh qui s'est déroulée dans le désert du Kadesh. Je me suis battu contre vous. Moi et toute mon escadrille, nous vous avons assaillis. Vous les Israéliens, vous étiez une minorité contre une majorité. Mais soudain, il y a eu une tempête et du vent. Et une tempête de sable s'est abattue sur nous. Et nous sommes tous tombés raides morts. Je suis un rescapé. Je suis le seul survivant de mon escadrille. Comment est-ce possible ? Le colonel Uri Ben-Ari, le chef de brigade numéro 7, écrit dans son livre « Presque sans donner d'ordre, en moins de 3 jours, nous avons avancé 15 kilomètres depuis la frontière du canal. Les Égyptiens ont laissé leurs chaussures et se sont enfuis. La guerre de Kippour. Et cette fois-ci, pas 8 armées, mais seulement l'Égypte et la Syrie. » À un tel point que Golda Meir a longtemps hésité avant de l'annoncer. Nos pertes sont énormes, un grand coup. Et grâce à Dieu, malgré tout, il y a eu un miracle. Le front syrien était sur le point de nous écraser. Emek Abacha, Avigdor Kahalani, Zvika. Les Syriens s'alignent de Ramat Hagolan à Gesher Bnot Yaakov. Et là, ils se sont arrêtés. Pourquoi se sont-ils arrêtés? Pourquoi n'ont-ils pas avancé plus que ça? Dans le butin syrien, on a retrouvé des habits civils. Les Syriens ont promis qu'ils entreraient à Dieu ne plaise et qu'ils prendraient nos filles. Les commandants syriens leur ont dit, prenez avec vous des habits civils et allez à Yafo, à Tel Aviv, à Haïfa et Tibériade. Mais il y a eu un miracle. Ils se sont arrêtés sur la rangée de collines de Ramat Hagolan. Et Avigdor Kahalani raconte, je suis tout seul avec 3 tanks. J'ai arrêté 150 tanks syriens. La question est toujours en suspens jusqu'à aujourd'hui. Comment se fait-il que les Syriens se soient arrêtés sur la rangée de collines de Ramat Hagolan? La réponse est écrite par un combattant du Mossad qui a questionné le commandant de la 9e division syrienne dans le Ramat Hagolan. Ils ont demandé au commandant de la division, pour quelle raison vous êtes-vous arrêté dans la rangée de collines de Ramat Hagolan? Et le commandant répond, je voudrais bien te voir à ma place. Comment peux-tu traverser la rangée de collines syriennes lorsque tu as en face de toi une rangée d'anges blancs qui se trouvent sur ces collines? Et il y a une main blanche qui est sortie du ciel et qui m'a fait signe de m'arrêter. Alors je me suis arrêté. Lorsque les soldats israéliens ont vu les Syriens en rampe et... Tout le monde arabe est contre nous. Dans les caricatures, on peut voir 8 armées arabes qui menacent de faire la guerre. Et le Saint béni soit-il nous fait tenir dans un coin et nous dit « Peut-être maintenant, mes chers enfants, vous comprendrez pendant ce long laps de temps que ce n'est ni par l'armée ni par la force, mais seulement avec l'Esprit de Dieu. » Comme dit le verset, eux avec des charrettes et des chevaux, et nous venons seulement avec le nom de Dieu. Et nous attendons longuement, apeurés. Le rabbinat militaire ordonne de déraciner des vergers afin de faire de la place pour 50 000 tombes pour les soldats de Tsahal. Et l'État d'Israël se trouve dans un terrible effroi. Nasser et tous les pays arabes s'enorgueillissent. Il n'y a aucune chance qu'il reste quelque chose d'Israël. Il y a une caricature d'Israélien en maillot de bain, à qui il ne reste plus qu'à plonger à la mer, et 8 canons de tanks des 8 armées arabes sont pointés sur lui. C'est une caricature qui est apparue dans le journal libanais Al Jamida. Que vous reste-t-il, Israël? Vous n'avez aucune chance, les pays arabes appellent et se préparent à la destruction d'Israël. Et le monde entier observe ceci sans aucune réaction. Ça nous rappelle la sortie d'Égypte, nous étions à la frontière, et il ne nous restait plus qu'à nous enfuir vers la mer, et tous les pays arabes nous entouraient. Ça nous rappelle ce qui se passe aujourd'hui. Nous n'avons pas d'autre possibilité, soit nous enfuir vers la mer, soit nous retourner vers le Créateur du monde. Le 5 juin 1967, Israël est entouré de toutes parts et la guerre commence. Le front égyptien, jordanien, irakien, l'Arabie saoudite, des guerriers issus des terroristes palestiniens, le front syrien et le front libanais. 7h46, les avions de l'armée de l'air attaquent les aéroports dans le Sinaï en Égypte et en moins de 2 heures, 450 avions ennemis sont détruits. 8h15, la division Tal sort en direction du sud de la bande de Gaza et vers le site de Rafiah. 10h15, la brigade numéro 7 part en direction de Khan Younes. 19h, deux régiments de tanks de la brigade numéro 7 pénètrent à El Arish. Le 6 juin à 6h du matin, la division Sharon finit de prendre possession de Maharoum Katef et Abu Aghela. 13h, Gaza est conquise. 16h, Ras El Nakeb est conquise. 18h30, le carrefour de Jabal Nib est conquis. 20h, l'armée égyptienne reçoit l'ordre de se retirer. En 2 jours seulement, ce front est terminé. De l'autre côté, il y a le front jordanien face à Jérusalem. 9h45, les Jordaniens bombardent Jérusalem et le centre du pays. 12h, les avions irakiens et jordaniens attaquent Israël. 12h25, on commence la riposte, attaque des avions en Jordanie. 13h, les Jordaniens s'emparent d'Armon Hanatziv. 15h, Israël attaque l'aéroport A3 en Irak et le détruit complètement. 15h30, on reprend Armon Hanatziv. 9h26, Tsour Vaher et Mutsava Pa'amon sont conquis. 19h30, des canons jordaniens bombardent Tel Aviv. Le 6 juin, à 3h du matin, Latrun est conquise. 5h30, la brigade numéro 45 pénètre dans Jenin. 6h15, les parachutistes de la brigade numéro 55 s'emparent de Gibat HaTachmoshet. 8h du matin, la conquête du nord de Jérusalem est terminée. 10h du matin, c'est Gibat HaMiftar. Et à 13h, on termine la conquête de Jenin. 17h, Shrem est conquise, le tombeau de Yosef. On arrive à Yosef, notre ancêtre. 17h20, c'est au tour de Kalkilia. 19h, c'est Ramallah. Et à minuit, l'armée jordanienne reçoit l'ordre de se retirer. Le 7 juin, soit le 28 Iyar, Koach en hébreu, il a montré la force de ses actes à son peuple afin de leur donner l'héritage des peuples. À 10h du matin, on rentre dans la vieille ville. Et à 10h15, le mont du Temple est entre nos mains. Karem est conquise. À midi, le combat est terminé. Que faire maintenant? On reçoit l'ordre de se diriger vers le Gush Etzion et à 18h, Gush Etzion est conquise. À 19h30, Jéricho est conquise. Remarquez bien, à 9h45, le front jordanien a commencé et à 10h15, le mont du Temple est déjà entre nos mains. Après 24h30, comment un peut-il poursuivre 1000 et deux mettre en fuite 10 000? En 3 jours, la vieille ville, Toulkarem et Shrem sont entre nos mains. On commence la semaine avec une guerre et mercredi, presque tout est entre nos mains. On reçoit l'ordre de conquérir Hebron à 6h du matin et à 6h30, Hebron est conquise. Le 8 juin à 13h, la guerre est terminée. Et que reste-t-il? En 4 jours, tous les fronts ont été achevés. Il ne reste plus qu'un front, le front syrien. Le front syrien était complètement abandonné. Les avions syriens ont attaqué Haïfa et Rosh Pina, mais nous n'avions pas assez d'armées pour riposter. Le 9 juin, Quatre jours après le début de la guerre, à 7h20 du matin, le ministre de la Défense ordonne d'attaquer le Ramat Hagolan. À 11h30, la brigade numéro 8 se prépare et commence le combat contre les Syriens dans le nord de Ramat Hagolan. À 11h30, début du combat. À 18h30, cessez-le-feu. 7 heures de combat et la guerre est terminée. C'est la fin de la 7e année. Comme il est dit, la 6e année, il y aura des bruits. La 7e, ce sera la guerre. Et à la fin de la 7e, le Mashiach vient. Qu'avons-nous dit au Saint-Béni soit-il ? Avons-nous dit au Saint-Béni soit-il, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait ? Avons-nous dit, ce jour Dieu nous l'a fait, allons nous réjouir ? Les Arabes se sont enfuis en laissant leurs chaussures. Le WAC ne s'attendait pas à ce que Moshe Dayan le recherche. Et lui a donné les clés du mont du Temple, il ne s'attendait vraiment pas. Et seulement 7 heures en finir avec le front syrien, 24h30 avec le front jordanien, Shrem en 2 heures, Jénine en 1 heure. Pour sortir Matet Yosef du tombeau de Yosef, ça a été un combat de 13 heures qui a échoué. Et là, nous ne remercions pas le Saint, béni soit-il. Mais nous avons dit, ce sont nos bombardiers, ni plus ni moins, c'est tout. Mais remercier le Saint, béni soit-il, non, c'est trop demandé. Et juste après la guerre, on gonfle le thorax, toute la terre est entre nos mains. Gaza, Jéricho, Shrem, Sanour, le tombeau de Joseph, le Sinaï, le tombeau de Rachel, le mont du Temple, rien ne manque. Dire merci au créateur du monde, non, c'est difficile. Par contre, on remercie Tsahal. Les drapeaux de la victoire flottent dans tout le pays avec les généraux de Tsahal qui défilent Israël croit en Tsahal. Et qu'en est-il des remerciements au Saint béni soit-il ? Le seul remerciement qu'il ait reçu est qu'on ait décidé après la guerre de commencer à faire marcher la télévision le Shabbat. Avant la guerre, même à un juif loin de la Torah et des mitzvot, il semblait évident qu'une télévision israélienne ne soit pas allumée le Shabbat. À la fin de la guerre, après tous les combats, le Saint béni soit-il regarde ce peuple qui est têtu et là, il recommence. 4 ans plus tard, Arafat devient le président de l'OLP et dit explicitement « Je vais conquérir la Sainte Palestine et je vais égorger tous les Juifs jusqu'à ce que leur sang abreuve la Sainte Palestine. » Le Créateur du monde attend la réaction du peuple d'Israël qui ne comprend toujours pas les allusions. Le Créateur du monde nous dit, vous ne comprenez toujours pas, eh bien je vais vous expliquer. 26 ans après la proclamation de l'État d'Israël, la valeur numérique du nom de Dieu, le jour de Kippour, à la fin de la 7e année, une nouvelle guerre commence. La guerre du jour du jugement, la guerre de Kippour. Et cette fois-ci, pas 8 armées, mais seulement l'Égypte et la Syrie. À un tel point que Golda Meir a longtemps hésité avant de l'annoncer. Nos pertes sont énormes, un grand coup. Et grâce à Dieu, malgré tout, il y a eu un miracle. Le front syrien était sur le point de nous écraser. Emek Abacha, Avigdor Kahalani, la troupe Tzvika. Les Syriens se sont avancés jusqu'à la rangée de collines du Ramat Hagolan à Gesher Bnot Yaakov. Et là, ils se sont arrêtés. Pourquoi se sont-ils arrêtés ? Pourquoi n'ont-ils pas avancé plus que ça ? Dans le butin syrien, on a retrouvé des habits civils. Les Syriens ont promis qu'ils entreraient à Dieu ne plaise et qu'ils prendraient nos filles. Les commandants syriens leur ont dit « Prenez avec vous des habits civils et allez à Yafo, à Tel Aviv, à Haïfa et Tibériade. » Mais il y a eu un miracle. Ils se sont arrêtés sur la rangée de collines de Ramat Hagolan. Et Avigdor Kahalani raconte, je suis tout seul avec 3 tanks. J'ai arrêté 150 tanks syriens. La guerre du jour du jugement, au moment où l'homme s'isole avec son créateur. Au moment où le Saint béni soit-il a dit à ses enfants, mes chers enfants, je veux vous délivrer. Au moment où tout le monde était dans les synagogues et maisons d'études, au moment de la prière de Nehila, au moment du service des Kohanim. Car vos pensées ne sont pas comme les miennes. Les Égyptiens ont pensé attaquer Israël le jour de Kippour et ainsi remporter la guerre. Mais c'est juste l'inverse qui s'est produit. C'est précisément le jour de Kippour où nous étions les plus vigilants. Tout le monde était dans les synagogues et criait « C'est la guerre, c'est la guerre !» Avons-nous remercié le Créateur du monde ? On a commencé à le remercier. Le peuple d'Israël a commencé à comprendre l'avertissement et les mouvements de repentir ont fait leur apparition. La yeshiva Dor HaChaim, Dor Sameach, Machon Meir et bien d'autres, les gens commençaient à réfléchir. Et ils voyaient le nom de Dieu dans la guerre du jour du jugement. Mais la question est toujours en suspens jusqu'à aujourd'hui. Comment se fait-il que les Syriens se soient arrêtés sur la rangée de collines de Ramat Hagolan? La réponse est écrite par un combattant du Mossad qui a questionné le commandant de la 9e division syrienne dans le Ramat Hagolan. Ils ont demandé au commandant de la division « Pour quelle raison vous êtes-vous arrêté dans la rangée de collines de Ramat Hagolan ?» Et le commandant répond « Je voudrais bien te voir à ma place. Comment peux-tu traverser la rangée de collines syriennes lorsque tu as en face de toi une rangée d'anges blancs qui se trouvent sur ces collines ?» Et il y a une main blanche qui est sortie du ciel et qui m'a fait signe de m'arrêter. Alors je me suis arrêté. Lorsque les soldats israéliens ont vu les Syriens en rang face à eux et qu'un seul tank a suffi à faire reculer une rangée de tanks syriens, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Même pendant la guerre de six jours, lorsque l'un des commandants de la brigade des parachutistes était en visite au Pentagone aux États-Unis, il a demandé à ce qu'ils examinent les combats. En 2 heures, Shrem est conquise. Comment se fait-il qu'en moins de 24 heures, le mont du Temple se trouve entre nos mains? Le commandant de la brigade des parachutistes a demandé au responsable du Pentagone américain « Analysez-moi le combat de la guerre de six jours. » Et le responsable de répondre « La guerre de six jours est impossible à analyser. Ce n'est pas une guerre comme les autres. On ne peut rien apprendre de cette guerre. C'est un miracle. It's a miracle. C'est un miracle. Ce n'est pas logique. »
J'ai écouté un rabbin qui a expliqué pourquoi ils ont réussi, pourquoi les juifs ont réussi à détruire les 450 avions qui devaient décoller d'Égypte pour écraser Israël, alors que c'était les derniers Sukhoi, les derniers MiG russes qu'ils avaient reçus, parce que les Russes étaient derrière. Et il a dit, rien que pour expliquer ça, il y a 6 miracles qui se sont produits. Alors, je ne me rappelle pas de tous, mais par exemple, le premier miracle, c'est que quand à 7h du matin, les Juifs ont décollé de Tel Aviv pour partir, pour détruire les avions, en fait, les Jordaniens avaient des radars pour vérifier le décollage. Et quand ils étaient convenus que quand les avions israéliens allaient décoller, ils allaient envoyer un code secret qui était codé aux Égyptiens pour dire « ça y est, ils sont partis, donc vous pouvez les intercepter ». Et c'est un miracle. En fait, ils avaient convenu d'un code, donc un code secret, pour que les Égyptiens puissent recevoir l'information. Et dans la nuit, ils ont changé le code. Ce qui fait qu'ils ont, bien envoyé le code aux Égyptiens qui ont reçu, mais ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris parce que le code avait changé. Donc du coup, ils ne sont pas intervenus. Bon. La deuxième miracle, c'est que quand ils ont traversé la frontière égyptienne, normalement, les gardes et tout ça devaient dire à la tour de contrôle qu'il y a des avions qui passent. Donc il faut les intercepter. Et en fait, ils ont dit que la veille, ils ont fait la fête, les Égyptiens, parce qu'ils étaient sûrs de gagner. Donc le champagne et tout ça. Et en fait, ils étaient ivres. Donc, ils ne se sont pas réveillés. Il y avait des gardes de 6 à 7, enfin toute la nuit, et après des gardes de 9 à 10, mais entre 7 et 8, là où, au moment où les avions ont passé, ils ne se sont pas réveillés. Le réveil a sonné, ils ne sont pas levés. Vous voyez, encore le hasard, comme on dira. Ensuite, après, quand ils sont arrivés sur l'aéroport, ils n'ont pas compris que personne ne tire dessus, sur eux. Et donc, ils ont pu envoyer les bombes et détruire les 450 avions. Parce que, et personne n'a compris, que le général en chef, il a dit, entre 7 et 8, vous ne tirez surtout sur aucun avion. Donc, ils ont vu, mais ils avaient l'ordre, on n'a pas le droit de tirer. Donc, ils n'ont pas tiré. Et ce qui fait qu'il n'y a aucun avion, aucun missile qui est tombé sur un avion israélien. Et puis encore d'autres. Vous voyez, donc, il faut vraiment accumuler les hasards pour expliquer rien que le miracle qui s'est produit. Et voilà, c'est comme ça. Et donc, mon ami me parle de ça. Il me dit, voilà ce qui s'est passé. Alors, dans Paris Match, il y avait des grands... Vous savez, Paris Match, c'est un grand journal. Il y avait des grandes photos avec les Égyptiens qui laissaient leurs chaussures, qui partaient. Et alors, bon, là, c'est rien. Hein. Bon, ça, c'est juste un dixième de ce qu'il m'a raconté. Où il a montré qu'ils utilisaient les Israélites, comme ils connaissaient la parole, ils utilisaient les mêmes stratégies de l'Ancien Testament. qui marchaient avec des casseroles, des machins comme ça, et les Égyptiens qui fichaient le camp, voyez, ou qui étaient paralysés, voyez. Mais c'est que Dieu, quoi. Voilà. Et quand il m'a parlé ça, mon cœur était en alerte, en disant, mais voilà, c'est ça que je cherchais, quoi. C'est Dieu qui agit aujourd'hui. Pas qui agissait il y a 4000 ans, 2000 ans, ou voilà, dans le futur, mais maintenant, vous voyez. Donc, ça actualisait l'action de Dieu, de la Bible, au moment où j'entendais ces paroles. Et ça disons que c'est quelque chose qui s'est passé un peu comme les disciples de Jéricho. Qui avait Jésus à côté, et il est dit que leur cœur était touché quand il leur parlait. Et c'est ce qui s'est passé pendant ce temps où il m'a partagé ça. J'ai jamais entendu ça, et surtout cette interprétation biblique. Voilà. Et donc après, j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire ? J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Après, je lui ai posé la question. C'est là qu'il m'a dit qu'il s'est donné à Jésus, parce que je ne le savais pas. Et puis j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire ? Il a dit, mais écoute, tu vas dans ta chambre, tu prends ta Bible. J'ai dit, mais j'en ai une. Mais tu pries pour que tu rencontres Jésus. Et c'est là que je me suis isolé, enfin je suis prêt à aller dans mon école. J'ai prié avec la même Bible que j'avais. Et alors là, le feu est sorti de la Bible, quoi. C'est comme si j'étais rempli de feu. Et donc là, j'ai vécu 2-3 mois avec tout un tas de copains à côté, hein, parce que vous savez, c'est avec des garçons comme ça dans des dortoirs. Il y avait tout un tas qui volait. Moi, je sentais rien. J'étais vraiment avec Dieu. Et le Seigneur m'a touché. Je voyais des lumières. Hein. Enfin, mon cœur était complètement transformé. Et c'est comme ça que j'ai rentré tout seul. Hein. À part lui, j'ai pas rencontré de chrétiens. Je connaissais pas. Je pensais que c'était le seul au monde à vivre ça. Vous voyez. Voilà. Et c'est qu'après qu'on m'a mis en contact avec une église évangélique, puisque moi, j'ai jamais touché ni aux protestants ni aux évangéliques. Je savais pas que ça existait. Voilà. Mais le démarrage, c'est miracle. Pour le peuple juif, pour l'établir, malgré toute l'opposition, vous voyez, ils étaient décidés. Il paraît que Nasser était tellement orgueilleux que jusqu'à la fin de sa vie, quoi, tout ce qu'il voulait, c'est détruire Israël, quoi. Et d'ailleurs, même la France a dû reculer parce que, vous voyez, il y a eu plusieurs moments, hein, 48. Ils ont voulu, la Société des Nations a dit, on peut établir Israël. Et tout de suite, ils ont été attaqués au moment même, ils l'ont déclaré, quoi, pour éradiquer tout de suite le peuple juif dès le départ. Et ensuite, en 56, quand il y a eu la guerre du canal de Suez, hein, puisqu'il y avait un enjeu pour le canal de Suez, et puis les Français et les Anglais voulaient garder cette ouverture, donc ils ont donné un coup de main à Israël pour cette guerre-là. Et quand les Russes, ils ont vu qu'ils avaient battu les Arabes, ils ont menacé la France de la bombe atomique. Et c'est là que, un peu après, De Gaulle a décidé de commencer la bombe atomique en France, l'arme nucléaire, parce qu'elle a dit j'accepte pas que les Américains, même si quels qu'ils sont, n'ont pas le droit de faire ça. Mais il y a eu du rationnement. Hein, ceux qui ont vécu en 56, 57, vous ne pouviez pas acheter l'essence. Hein. L'essence, vous aviez des tickets pour acheter l'essence parce qu'ils ont coupé tout le pétrole en France. Quoi. Voilà. Et donc, ce n'était pas des menaces en l'air. C'était vraiment parce que les Russes et les Américains n'ont pas voulu qu'on touche et que Israël s'est détruit. Vous voyez, donc, il y a la façade, il y a la réalité. Hein. Et De Gaulle, d'ailleurs, en 67, quand il a eu l'ambassadeur d'Israël, il a dit, il savait que les Arabes voulaient détruire Israël, et il l'a vu 8 jours avant. C'est le conférence de presse qui est sur YouTube. 8 jours avant, il a vu l'ambassadeur d'Israël. Il a dit, si vous attaquez, ça se passera pas comme en 56. Parce qu'effectivement, De Gaulle savait qu'il y avait derrière un conflit nucléaire qui risquait de s'allumer. Donc vous voyez, jusqu'où ça va? Il faut comprendre que l'enjeu d'Israël n'est pas rien. Ce n'est pas comme un autre peuple. Ce n'est pas comme une autre guerre. C'est une guerre spirituelle. Et le pasteur Isagouri, ceux qui n'ont pas entendu, vous pouvez l'écouter sur Internet, il a bien dit, si vous ne comprenez pas l'enjeu spirituel, vous ne comprenez rien à Israël. L'enjeu spirituel, c'est qu'il y a des esprits, et c'est les esprits de de mort, de destruction, qui sont derrière les Arabes. Et il nous l'a longuement prouvé dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, que ces esprits de mort veulent détruire le peuple d'Israël. Pourquoi ? Parce que c'est le peuple de Dieu. C'est Dieu qui veut le détruire. C'est l'opposition à Dieu, qui est ancestrale et qui est luciférienne. Voilà. Donc, c'est un conflit spirituel. Et on ne pourra pas le régler. Personne ne pourra le régler. Personne. La seule chose, c'est Jésus. C'est Jésus qui va le régler. Parce que c'est Satan qui est derrière. C'est le diable. C'est au plus haut niveau du combat spirituel qui peut s'exister. C'est le diable lui-même qui veut, lui, s'opposer à Dieu. Et au travers d'Israël, il veut s'opposer à Dieu. Mais il ne pourra pas. Parce que Jésus en a décidé autrement. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette main qui est sortie et qui a montré au général que s'ils allaient passer, ils seraient détruits par Dieu lui-même. Et vous voyez, ces peuples-là, même qui ne sont pas chrétiens, ou, ils savent ce que veut dire les choses spirituelles. Et ce qui fait qu'il leur a demandé de faire demi-tour. Et la guerre de Kippour a été gagnée alors qu'ils étaient dans les synagogues en train de prier. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas de char, ils n'avaient rien, quoi. Mais Dieu a pris la défense. Et le pasteur Isagouri, elle nous a dit, effectivement, en 67, tous les gens étaient fiers de Tzahal, de leur armée. Mais à Kippour, là, les choses ont changé. Elle a dit, la Torah, maintenant même les gens qui ne sont pas croyants, les juifs ne sont pas croyants, ils ont accepté que la Torah fasse partie de leur vie, quoi, si vous voulez. Donc il y a un changement, il y a quelque chose. Vous voyez, Dieu amène, malgré la rébellion, à considérer qui il est au travers de ça. Mais c'est petit, vous voyez. Mais il faut regarder dans l'histoire. C'est pour ça, regarder dans l'histoire ce qui se passe, parce que Dieu est là. Et il faut remarquer comment Dieu agit, comment Dieu intervient, comment Dieu fait les choses. Et là, notre vie change, quoi. Et on voit que les enjeux aujourd'hui, eh bien, c'est des enjeux planétaires. C'est des enjeux, parce qu'il y a le retour de Jésus, puisque Jésus veut mettre les pieds sur la montagne de Sion, sur Jérusalem, et il va revenir. Et donc, personne ne peut prendre cette place-là. Et ce ne sera pas divisé comme le monde diplomatique le veut. Ce sera une capitale, la capitale d'Israël. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Donc, je voulais vous dire que mon témoignage, c'était celui lié à cette guerre des six jours qui, moi, m'a donné la réponse à cette réalité de Dieu dans notre quotidien, dans la réalité de l'histoire d'aujourd'hui, en tout cas l'histoire que j'ai connue à ce moment-là. Et aujourd'hui, je vois les choses autrement, effectivement. Mais ça, vous ne pouvez pas le partager avec quelqu'un qui n'a pas cette expérience de Dieu. Parce que mes parents, même qu'ils soient croyants, tout ça, ils ne comprenaient pas ça. On parle avec des amis, ils ne comprennent pas ça. Ils ont une lecture, une grille de lecture différente. Donc, vous pouvez pointer, mais je crois que c'est Churchill qui a dit, si vous ne croyez pas au miracle, admettons, vous ne croyez pas que les miracles existent, il a dit, regardez à Israël. Vous voyez, hier, j'ai vu une vidéo de... Chaque fois, je ne trouve pas le nom du politique. Pardon ? François Fillon, oui. ouais. François Fillon qui disait longuement à ses partisans, là, ils ont dit, mais la guerre de 67, j'étais collé au transistor, j'étais là, guerre des Kippour, j'étais là, etc. Et il explique longuement. Et il a dit, j'ai même failli louper mon examen de droit, c'était en première année de droit. Vous voyez, ça passionnait les politiques, ils ne comprennent pas. Ils comprennent pas. Bon, ils font pas. Il a dit qu'il est catholique. Hein, il a dit, moi, je suis catholique. Mais vous voyez, même lui, il a osé parler de cet événement, de la guerre des six jours, parce que effectivement, les politiques comprennent pas. Personne ne comprend. Il n'y a que Dieu qui a pu aider comme ça une guerre. Il a gagné. Quoi. Voilà ce qu'on voulait vous partager. La question, c'est tout Israël sera sauvé. Alors, on est dans la fin des temps, hein, mais on ne sait pas quel moment Dieu va revenir, Jésus va revenir. Donc, à un moment donné, Israël sera sauvé. Mais pour ça, il y a encore des tribulations, il y a encore des événements. Ce n'est pas fini. On est dans la fin des temps, mais alors, Il y en a qui s'amusent à prédire. Moi, je n'irai pas là-dedans. Parce que, vous voyez, comme l'a dit Perrine, avec beaucoup de justesse, si vous commencez à aller là-dedans, vous êtes sûr d'être piégé. Parce que ça ne se passera pas comme ça. Parce que Dieu a une façon de faire des choses où c'est plus compliqué que nous. Parfois, il fait des choses, vous attendez pas. Et vous voyez, donc, c'est sûr que ça arrivera, mais en son temps. On ne sait pas. Aujourd'hui, il y a très peu de croyants, même juifs. Mais ça ne change rien à Dieu. Voyez, si les juifs ne croient pas, parce que souvent on se dit, ah, c'est pas possible, il se passe des choses et les juifs, ils ne croient pas en Dieu. Mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Est-ce que si les chrétiens, même évangéliques, font n'importe quoi, ça voir quelque chose avec Dieu, c'est la responsabilité des gens, des hommes, vous voyez. Mais Dieu peut faire ce qu'il veut. Et s'il a décidé, et ça, la décision, ça date de 48, de réutiliser ce peuple qui, effectivement, a vécu cette diaspora, et maintenant qu'il veut le réutiliser pour préparer son retour, bah, il a le droit. Vous voyez, mais effectivement, ça confond notre raison. Ça, je suis d'accord que ce n'est pas raisonnable et je ne peux pas t'expliquer comment ça va se passer. Mais ça va se passer. Oui ? Donc toutes les prophéties de l'Ancien Testament effectivement s'accomplissent. Bon, là il faudrait passer beaucoup plus de temps d'études pour vous montrer cette parallélisme entre ce que les prophéties dans l'Ancien Testament annoncent sur ce temps-là. Vous voyez, c'est maintenant ça arrive et c'est pour ça que c'est extraordinaire de vivre ce temps-là, de voir que Dieu est en train d'agir maintenant et au su et à la barbe de tous les humains, y compris des chrétiens qui ne comprennent rien. Et c'est dommage parce que en fait on peut vivre des choses fascinantes en regardant l'histoire, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être pour Colette aussi? Voilà, on a terminé d'exposer, mais bon, c'est bien d'avoir un débat et puis des choses qui... Les Écritures. Ouais, c'est une question de lecture d'histoire. Hein. C'est sûr que la Nouvelle Alliance, ça change complètement, puisque les Juifs aussi doivent rentrer dans la Nouvelle Alliance. Hein. C'est pas, on ne revient pas à l'Ancienne Alliance. Leur cœur doit être changé aussi. Mais c'est une question de territoire et de peuple, vous voyez, c'est pas eux s'ils rentrent, s'ils passent pas, parce qu'il y a des chrétiens qui comprennent pas et qui pensent que voilà, il faut revenir à l'Ancienne Alliance, il faut revenir comme les Juifs, etc. Non, ça n'a rien à voir. Les Juifs doivent rentrer dans l'Église, si vous voulez, dans l'Alliance nouvelle. Hein. Mais Dieu utilise ce peuple pour confondre les nations, en fait, c'est plutôt ça. Et il le fait parce que alors bon, ça c'est un grand thème de RNC. Je prends une autre casquette, RNC. Et Jean-Marc Potenti, qui va venir au mois de mars, lui, il est porteur en fait de ce message RNC, Réseau Nouvelle Connexion. C'est quoi? C'est que, en fait, ils combattent, enfin surtout Jean-Marc, parce qu'il n'est pas suivi forcément par tout le monde, ils combattent l'idée qu'on s'intéresse trop à un certain nombre de théologies, comme par exemple celle qui découpe l'histoire en morceaux, comment ça s'appelle, c'est aussi une théologie, les darbistes font ça, où ils expliquent que de 0 à 300, de 300 à 520, oui, la... Pardon ? Les dispensationalistes, voilà. Les dispensationnalistes, ceux qui dispensent les époques, vous voyez. Il y a des chrétiens qui font ça, et beaucoup d'évangéliques. Hein. Oui, alors ils cherchent dans la Bible. Alors ça, c'est cette dispensation. Ensuite, c'est la dispensation de telle époque, de Louis XIV. Ensuite, après, les dispensationalistes, voilà. Bon, voilà. Ça, c'est une erreur, hein, mais que beaucoup d'évangéliques font. L'autre erreur aussi, c'est d'essayer de savoir comment précisément va arriver le millénium. Comment précisément on va être enlevé. Hein, c'est Left Behind. Hein, il y a des pavés comme ça qui sont avec un roman Left Behind, laissé derrière, hein, etc. Bon, il y a des chrétiens qui vraiment se régalent de ça. Vous voyez. Et Réseau Nouvelle Connexion dit, attendez, ça, c'est Satan qui cherche à faire de la dispersion pour pas que vous vous occupiez de maintenant, parce que pendant que vous regardez tout ça, que vous étudiez tout ça, que vous discutez de tout ça, vous ne faites pas le royaume de Dieu de ce que vous demande dans la société civile. Au lieu de vous engager à vous occuper des gens, des pauvres et tout ça, et de témoigner, d'évangéliser, etc., vous allez chercher toutes ces choses pour savoir à quel moment vous êtes enlevé. Vous voyez et c'est ça le danger. D'autant plus qu'il y a la théologie catholique qui est derrière, hein, parce qu'on est quand même imprégné par le catholicisme en France, qui sans arrêt, et ça c'est dans l'esprit des gens, que la religion c'est le ciel. On va au ciel. Alors on attend d'aller au ciel. Voilà. Donc là, on attend. Vous voyez, on attend. Alors on attend la dispensation, on attend l'enlèvement, on attend d'aller au ciel. Voilà. Et pendant ce temps-là, on ne fait rien. On chauffe des chaises. Voilà. Au lieu de mettre en pratique le royaume de l'extérieur. C'est ça qui énerve un petit peu RNC, en disant, bon, ok, on peut en parler, là, vous voyez, on en parle, mais on n'en parle pas tous les dimanches. Mais une fois qu'on a parlé de ça, on va dehors, on va témoigner, on va évangéliser, on va témoigner de notre foi, vous voyez ? Parce que notre destinée n'est pas au ciel, notre destinée est sur la terre. Et même au millénium, ce sera sur la terre, parce que Jésus va revenir à Jérusalem. Et il va régner sur le trône de David. Donc notre destinée est sur la terre. Au lieu de nous échapper, il faudrait chercher à nous enraciner, à nous engager dans nos communes, dans tous les domaines politiques, partout, etc. Parce que c'est sur la terre que nous attend. Et les gens doivent nous voir engagés avec eux, à leur côté, voyez, au lieu de nous évader. Voilà. Et sachez que même après le millénium, ce sera sur la terre. Nous, on est des créatures, on n'est pas des anges. On n'est pas des purs esprits, on recevra un nouveau corps pour vivre sur la terre. Et ça, c'est nouveau. L'Église catholique, elle n'enseigne pas ça. Elle parle de purgatoire, machin avec les anges et tout ça. Voilà. Non, non, c'est sur la terre. Tout se passe sur la terre. Voyez. Et c'est là, voilà, RNC, c'est ce message-là. Ouais. Voilà. Voilà. Oui, parce que c'est toujours une fuite. On cherche à savoir les mystères de l'au-delà, des machins, etc. Alors que ce qu'on doit faire, c'est comme Jésus. Jésus, il était sur la terre. Il a guéri les malades. Il s'est occupé des gens, etc. Vous voyez, c'est l'engagement. Et comme dit si bien Colette, l'incarnation. L'incarnation. Il faut être incarné comme Jésus s'est incarné dans le Christ. Eh bien, nous, on doit être incarnés dans la société dans laquelle nous sommes. Voilà, c'est un peu ça aussi qui beaucoup... vous voyez, c'est un peu le mystique. C'est, voilà, ça a toujours été une fuite des chrétiens vers des choses voilà, qui leur font perdre du temps. Et pendant ce temps-là, ils ne s'occupent pas des gens. Quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant Israël ? On n'a certainement pas... tout abordé, hein, c'est clair.
Les chauffards.
Les chauffards, c'est des cornes de buffle qui sont tournées. Oui, mais bon, il faut aussi laisser un peu d'initiative. C'est comme nous, on est habillé en rouge, en vert. Bon, on a le droit un petit peu à des fantaisies, quoi. Des fantaisies. Bon, c'est pas ça qui va faire revenir Jésus, hein, c'est sûr. Mais bon, je crois que c'est un instrument qui est souvent utilisé dans l'Ancien Testament et chez les Juifs, peut-être.
Là-dessus, effectivement, Perrine l'a même dit hier, mais c'est vrai que t'étais pas là. Je veux dire, moi-même, j'ai toujours fui, je veux dire, ceux qui étaient en train de tomber dans ces espèces de rituels là, je veux dire, mais en même temps, Patty Ridings par exemple, que les Ridings sont des gens extrêmement équilibrés, Patty Ridings, je l'ai vu souffler du chauffard par exemple, et quand c'est ça, je crois qu'elle l'a reçu de l'esprit et qu'elle le fait à Munich. À Munich, il y avait des gens qui soufflaient du chauffard, tu vois. Donc là, je crois que c'est juste. Donc là encore, il faut du discernement pour ces trucs-là. Il faut pas tomber dans l'exagération. Il y en a qui tombent dans l'exagération. Bah, je veux dire, voilà, il y a tout, qu'est-ce que tu veux. Mais en même temps, il ne faut pas non plus dire non, j'utilise pas parce que ça me paraît être du folklore. Ou il faut se sentir libre et surtout conduit par l'esprit, là encore. C'est vraiment. Moi, quand. Il y a vraiment que ça, je veux dire, qui peut nous faire qu'on soit le plus juste possible ou le moins mal juste possible, je sais pas comment dire.
En fait, ce qui est perturbant, parce que c'est un peu ma théorie, c'est que, et j'entends beaucoup de personnes le dire, et je dirais même ma fille, hein, c'est que les Juifs, en fait, ils ont plein d'argent, quoi. Enfin, ils sont pétés de thunes, pardon. Ils ont plein d'argent. Et en fait, c'est ce qui a toujours pu créer une révolte pour beaucoup de personnes. Voilà. Et je dirais même la nouvelle génération. Moi, je sais que j'ai été exposée à ça. C'est difficile de leur dire, voilà, ils viennent, ils nous disent, ouais, ils sont bourrés. Enfin, ils ont plein d'argent, pardon. Et voilà, c'est pas juste. Voilà. Et moi, je sais que je l'ai pensé, voilà, et voilà.
Michel va répondre aussi. Moi, je vais répondre de mon côté, c'est peut-être la même réponse. Ouais, voilà. Mais. Ah oui, tu veux parler avant ? Voilà.
Non, la réponse historique est simple, c'est que dans tous les pays chrétiens, donc à l'époque catholique, dans la plupart des pays catholiques, les juifs n'avaient accès à aucun métier. Comme c'était des gens qui apprenaient à lire, comme les protestants, pour pouvoir lire leurs livres religieux, ils étaient donc plus cultivés. Attends, j'ai pas fini.
Je sais que tu veux pas le dire, parce que je te connais. Et, non. Non, je te laisse assurer, mais on se complète. Non, on se complète. Ce qui est important de dire, c'est que dès les premiers siècles, dès les 2-3 premiers siècles, l'Église qui s'appelait pas catholique, mais qui était l'équivalent du catholique, ils ont dit les Juifs, c'est des déicides, c'est-à-dire qu'ils ont tué Jésus. Donc tout à fait au début, on peut le comprendre, on peut plus difficilement le comprendre 20 siècles après, mais bon, les premiers, bon, ils étaient peut-être fils de machin, etc. Voilà, et c'est pour ça qu'ils l'ont tout interdit. Voilà, je te laisse.
Donc, ils n'avaient pas le droit d'être notaire, ils n'avaient pas le droit d'être professeur, ils avaient presque tous les métiers leur étaient interdits. Les métiers des gens cultivés, bien sûr. Et comme eux, ils étaient en général assez cultivés, puisqu'ils étaient obligés de lire, hein. À l'époque, l'analphabétisme était de 90%. Hein. Donc, très vite, ils se sont réfugiés vers la seule profession qui était méprisée par les chrétiens, tout ce qui touchait à l'argent. La banque, le prêt... Voilà. C'est demander des intérêts trop importants. Voilà. Voilà. Et comme ils n'avaient accès à rien, les Juifs prêtaient de l'argent. Et ils avaient une certaine propension à en profiter et à devenir des usuriers. Ce qu'on voit dans, je ne sais plus quelle pièce de Shakespeare, celui de Venise, là. Voilà, déjà au temple, Jésus s'était révolté contre ça. Mais donc, ça fait que historiquement, ils se sont réfugiés vers ces professions, que les catholiques ne touchaient pas à l'argent, c'était sale. Donc voilà, ils sont devenus banquiers. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a toute une branche de la famille Rothschild, sont des banquiers, etc. Bon, maintenant, moi, des juifs pauvres, ça existe aussi, et il y en a aussi beaucoup. Le problème, c'est que ceux qui sont riches, on les connaît, parce que c'est des grands noms. C'est les Rothschild, etc. Aux États-Unis, il y a quand même pas mal de grandes familles juives, etc. Ils ont aussi quelque chose qui entretient la richesse. Mon père, qui les observait beaucoup, son patron était juif, d'ailleurs. Ils ont une grande solidarité entre eux. C'est-à-dire qu'en général, ils ne vont pas laisser un membre de la famille crever de faim, ou, etc. Il y a une entraide qui fait que, bah, du coup, bah, il y a une prospérité. À partir du moment où il y a entraide, il y a aussi une meilleure prospérité. Mais les princes arabes les dépassent très largement au niveau de la richesse et de la mauvaise utilisation de l'argent. Les collections de Ferrari au pays Qatar, etc. Enfin,
il y a aussi la notion d'utilisation de principes de prospérité que Dieu a mis à leur disposition au départ, le principe de la dîme, au-delà même que eux pratiquent avec rigueur, et il y en a qui donnent même jusqu'à 90% de leurs revenus quand ils en ont, quand ça rentre, ils donnent autant, et donc ça se multiplie. C'est pas qu'une question.
Oui, mais pourquoi ils sont aussi intelligents? Ça aussi, c'est un problème français. Les Français se sont aperçus qu'ils ont perdu la guerre de 1870. Hein. C'est fondamental ce que je vais vous dire, parce que moi, ça m'a frappé. Et les stratèges généraux français ont réfléchi. Ils ont dit, mais comment ça se fait qu'on l'a perdu contre les Allemands? Et vous savez la conclusion à laquelle ils sont arrivés, c'est qu'ils se sont aperçus que les Allemands, dans les tranchées, ils lisaient la Bible, parce qu'ils étaient protestants, ils lisaient la Bible. Et les Français ne savaient pas lire. Parce que les catholiques, c'est le problème du catholicisme. Le catholicisme veut toujours garder les gens dans la pauvreté, dans la misère, parce que comme ça, on peut les contrôler, on peut les diriger. Nous, les pauvres vont au ciel. Chez les Arabes, c'est ceux qui les martyrs, comme ça ils vont les vierges, et les catholiques, c'est les pauvres. Voilà. Vous voyez, mais ça vient tout de la religion. C'est pour ça que les Français, ils peuvent plus supporter la religion, parce que hier encore, j'ai écouté à chaque fois, je trouve pas le politique là, François Fillon. J'y arrive pas. Voilà. Lui, il a dit. La République française s'est battue pendant 200 ans. Il a dit 200 ans avec le catholicisme. Donc lui, il le reconnaît. Pendant 200 ans, parce que le catholicisme a voulu renverser la Révolution, parce que c'est les catholiques, le pouvoir de Rome, si vous voulez, le Vatican, si vous voulez, qui veut garder la mainmise, quoi. Et donc c'est un combat. En France, on est en combat contre le catholicisme, vous voyez. On n'est pas dans un truc neutre, c'est toujours des combats. Voilà. Et ce qui fait qu'il n'y a pas de neutralité, parce que même Sarkozy, il y a quelques années, quand il était ministre de l'Intérieur, il a fait un discours à Colombes, là, avec des religieux, et à la fin, il y a le Monseigneur Lustiger de Paris qui est venu le voir en disant, Monsieur Sarkozy, rappelez-vous que la France est catholique. Et lui, il dit, mais moi, je suis ministre des cultes. Vous voyez, donc c'est pas parti, c'est toujours pas parti. Et le catholicisme, il crève complètement le pays de la France, parce que ce sont des théologies qui sont des théologies de domination. Et là, les juifs, effectivement, ils avaient beau jeu, parce qu'ils disaient, oh, il ne faut pas toujours l'argent, mais dès qu'ils s'enrichissaient, on les détruisait. Les templiers, c'est pareil, les templiers sont enrichis, mais l'argent, c'est ce qui vous donne tout le pouvoir. Donc en fait, régulièrement, les rois, ils faisaient des descentes des templiers, ils éradiquaient les juifs, etc. L'Espagne aussi ?
Qu'ils se remettent, qu'ils fassent leurs finances, et une ou deux générations après, on les fichait dehors, on gardait tous leurs biens. Et puis, comme ils étaient courageux, ils recommençaient, la génération suivante était riche, et on les laissait s'installer, ils prospéraient, et hop, on les fichait dehors. Ils ont fait ça, les Espagnols, les Anglais ont été très bons, peut-être les Français aussi. Mais il y a un autre aspect, qu'il faut quand même faire attention aux images d'Épinal, parce que est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire « Ah, oh, mon chef, mon patron, mon voisin, il est bourré de fric, c'est une honte, c'est un athée riche !» Ça gêne pas. Mais un juif riche, oh, ça c'est pas beau. Il y a quand même un problème là. Il y a un souci. Ça joue aussi avec certains protestants. C'est un protestant. Oh, il pourrait être fric, oui, ça. Mais est-ce qu'on va dire volontiers un athée ou un laïc bourré de fric, ça gêne pas. Donc il y a quand même un truc là qui va pas. Hein, moi j'ai vu mes voisins avec le monsieur qui dirige le club hippique, là je savais pas qu'il était juif, j'aurais dû y penser, il s'appelle Lazare. Mais j'y avais pas pensé, je suis comme de Funès, Salomon est juif, ouais, je suis à peu près pareil, j'étais là dans ma voiture, Lazare est juif. Tout à fait la scène de Funès. Et bon, je l'aime pas trop, c'est un fait, parce que. Hein, mais la voisine, qui pourtant lit la Bible avec nous et prie, etc., qui me dit c'est un sale juif. Non, pas sale, j'ai dit c'est un juif, il est riche, etc. Je fais ah bon, moi je vois pas le rapport. Il est casse-pied, etc. Mais le rapport avec le fait qu'il soit juif, je vois pas. En plus, il est à peine pratiquant. Mais pourquoi rajouter ça? Pour moi, Lazare, il est casse-pied, il s'occupe que de lui et pas des autres. Mais de là à dire, oui, c'est chaud, voilà. Mais de là à dire, c'est un juif, et qu'est-ce que ça rajoute de plus? Il ne viendrait pas à quelqu'un de dire, et en plus, c'est un athée. Donc, il y a quelque chose de souciant, là.
Le radin. Ah, peut-être, ouais. Ouais. Oui.
On les a quand même spoliés. On les a quand même dépouillés de tout pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont été spoliés. La Suisse, elle s'est bien enrichie. Et la Deuxième Guerre par les Allemands a été remportée grâce à cet argent qui était en fait, qui revenait de Suisse pour continuer leurs engins de guerre pour l'Allemagne. Donc.
Oui.
Pardon, je voudrais revenir sur le chauffard parce que ça m'intéresse. C'est un instrument à cornes de bœuf ou de taureau, un peu plié. J'en ai un sous mon armoire, rempli de poussière. Plus j'enlève la poussière, plus ça revient. Donc je ne touche pas beaucoup. Il faut penser que l'Ancien Testament, parce que les Juifs, même messianiques, ils parlent de l'Ancien Testament. Donc ce sont des instruments de. Si le Seigneur, comme dit la sœur, si le Seigneur, l'Esprit, dit de marcher dans la ville, parce que bon, on est appelé à, avec la salle qu'on va faire en bas, on peut avoir un groupe de louanges messianiques. Et si on marche dans la ville ou ici, et que l'Esprit dit qu'il faut souffler le chauffard, ça veut dire que.